Bonjour à tous, je suis Pierre de Bonneville. Merci de nous écouter dans l'émission Lecture sur MM Radio avec Angela Potti.
MM Radio.
Cultiver la haine de soi. Comme sa mère, Michel Houellebecq balaie d'un revers de la main la psychanalyse et traite Freud de vieille barbe, Lacan de charlatan. Il pense que c'est à côté de la plaque et complètement dépassé. Ce déni de la psychanalyse, réitéré à plusieurs reprises, peut nous faire sourire. Contemplateur de sa souffrance, Michel Houellebecq s'analyse lui-même, pourtant, dès son premier recueil de textes, Rester vivant, de la façon suivante. Aller jusqu'au fond du gouffre de l'absence d'amour, cultiver la haine de soi, haine des autres, mépris de soi. C'est Houellebecq qui parle. Accumuler des frustrations en grand nombre, apprendre à devenir poète, c'est désapprendre à vivre. C'est le premier écrit qui a été édité de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq explique donc lui-même l'abandon et les carences affectives dont il a été victime et les conséquences subies. Ces manques sont tout simplement des abîmes pour l'enfant qui en est victime. L'image calamiteuse qu'il a de lui, sa perte de confiance, l'inaptitude dans ses relations aux autres, la vision pitoyable qu'il se fait d'un monde coupable. La haine, l'amour se jouent là. L'enfant se déprécie lui-même et ne développe pas une relation de confiance avec les autres. Le monde lui est hostile.
Pourquoi cet extrait que vous avez choisi pour...
Oui, d'ailleurs, c'est un extrait qui est dans Rester vivant.
Pourquoi ce passage? Pourquoi cette lecture de votre livre, Houellebecq, son chien et ses femmes?
Parce que ce qui conduit un être humain comme Houellebecq, c'est la haine de soi. C'est, il s'aime pas physiquement, il s'aime pas... moralement, il est refusé par tous, par les filles évidemment. Il n'embrassera aucune fille avant l'âge de 18 ans et aucune fille ne l'embrassera. Ce qui est symptomatique, c'est que quand il l'exprime, il dit « aucune fille ne m'a embrassé avant 18 ans ». Comme s'il il pourrait dire « je n'ai embrassé aucune fille avant l'âge de 18 ans ». Donc il est toujours « c'est le monde doit venir à lui, mais c'est pas lui qui va aller au monde ».
Tout à fait. Nouvelle rentrée, nouveau personnage et ses relations avec les femmes. Rendez-vous annuel pour vous ?
Oui, c'est ça. Des personnalités qui sont Céline, Thomas Bernhard, Houellebecq, qui sont aussi d'autres auteurs, écrivains ou écrivaines, qui ont manifestement des problèmes dans leur enfance, qui les amènent effectivement à écrire et à décrire, et à analyser et à creuser ces questions élémentaires qui sont le manque d'amour et donc le substitut et la médecine, c'est l'écriture, c'est la création, c'est la peinture, c'est la chanson, c'est la sculpture, la danse, enfin bref, s'exprimer, exprimer ses manques.
S'intéresser...
Et ses traumatismes.
Ouais, s'intéresser à Houellebecq, après Céline et Thomas Bernhard. Pourquoi j'ai dit Thomas? Je ne
Thomas
sais pas.
Bernhard.
Thomas
Bernhard.
Thomas, on dit bien Thomas.
Thomas, oui,
Thomas
c'est
Bernhard.
C'est un Allemand.
C'est ça. C'est une suite logique, on va dire, afin de rester dans la lignée de ces hommes qui, justement, qui compliquent toutes leurs relations. Parce que ce n'est pas que les femmes, hein, en fait. Hein. C'est toutes leurs relations qui compliquent.
On pourrait faire un livre aussi sur Jelinek, sur Elfriede Jelinek. Ou,
ah, ça, c'est les livres prévus.
Non, pas du tout. Non,
non.
Non, parce que personne ne connaît. Ah. Thomas Bernhard, déjà, il y a du mal.
Ouais.
Alors, Elfriede Jelinek, c'est encore pire. Donc,
ouais. Voilà. Donc, pas de suite logique, quand même.
Si, il y a une direction qui est claire, c'est de vouloir sortir chaque année, donc 2015, Céline et les femmes, 2016, Thomas Bernhard, Une vie sans femme, et 2017, donc Houellebecq, Son chien, ses femmes, la volonté de creuser, d'essayer de comprendre à travers un écrivain reconnu, un styliste, parce que ces trois stylistes, Céline, Thomas Bernhard, évidemment, Et Houellebecq aussi, on peut le dire, c'est-à-dire des gens, des hommes, des créateurs qui ont créé une œuvre ou ont créé quelque chose qui parle aux autres, parle aux individus que nous sommes, sans s'intéresser à la littérature, mais en s'intéressant aussi à la littérature. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, il nous passe quelque chose. Ouais. Et le message qu'il nous passe est important, intéressant. Enfin, dans le cas de Houellebecq, c'est évidemment un auteur contemporain qui existe toujours, qui a 62 ans aujourd'hui ou 61 ans, 62 ans, qui existe toujours, qui produit toujours, heureusement pour lui et pour nous. Et donc, ce sont des gens, pour, concernant Houellebecq, qu'il est intéressant de savoir aujourd'hui, surtout que c'est un poète, avant tout, c'est un homme, dans le passage que je viens de lire, c'est de faire ressortir cet instrument magnifique d'une beauté surréelle, que ce type-là s'exprime par un alexandrin, alors que Céline, par exemple, s'exprime un peu comme Villon, avec des vers de 8 pieds. C'est, chacun a sa musique, a son rythme, a sa mélodie. Et dans le cas de Houellebecq, ce qui est intéressant, c'est de, au-delà de l'aspect psychanalytique, si on peut dire, de ses rapports avec le sexe, avec les femmes et avec les chiens, avec le chien, c'est de s'intéresser à la façon dont il écrit, à son style, parce que on dit que Houellebecq n'a pas de style. Houellebecq a un style, comme tout le monde. Enfin, on a une façon de s'exprimer, on a une façon de s'exprimer, que ce soit par écrit ou autrement.
Et donc se rapprocher d'eux à travers leur relation avec les femmes, on approche
avec
de leur intimité,
l'amour.
C'est ça ?
Au-delà des femmes, c'est le sexe et l'amour, l'amour et le sexe. L'amour d'abord. Dont les uns et les autres, les trois, Céline, Michel Houellebecq ou Thomas Bernhard, ont considérablement manqué ou ont eu en trop et n'ont pas supporté. Enfin, dans le cas de Céline, c'est l'amour envahissant de sa mère. Dans le cas de Thomas Bernhard, c'est le refus total de sa mère, de cet individu qui lui est arrivé et qui lui est tombé sur le paletot alors qu'il n'était pas attendu, et donc qu'elle corrigeait à coup de nerf de bœuf. Non, c'était terrible, c'était violent. C'était 1930, mais c'était violent. Et dans le cas de Michel Houellebecq, c'est un gamin qui a été abandonné à 5 mois. Il avait 5 mois quand ses parents sont partis faire un tour en Afrique, en le laissant à sa grand-mère paternelle. 5 mois, c'est quand même... Et il a pratiquement été élevé par ses grands-mères, et pas du tout par ses parents, c'est par le couple de ses parents qui n'a jamais existé. Il n'a jamais vu son père et sa mère exister ensemble.
C'est ça,
Donc comment... quelle image peut-il avoir de l'amour ? Quelle image peut-il avoir de l'amour maternel qui, on le sait, dans les 3 premières années, est capitale ? Je veux dire, même en substituant une grand-mère qui est la mère de substitution rêvée, en principe. Et puis ses tantes aussi, il a eu des tantes qui l'ont emmené en vacances, etc. Mais bref, rien n'a jamais remplacé l'amour de sa mère qui n'a pas existé et qu'elle a même nié. Elle était au-dessus de ça. C'était, et la haine de Houellebecq vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la société en général et du monde en particulier, du monde de la mère, de la maternité, viennent de là.
Dans notre conversation de lecture de l'émission Lecture en 2016, à l'occasion de la sortie donc de Thomas Bernhard, Une vie sans femme, vous disiez que vous vous intéressez à ces hommes parce qu'ils vous ressemblent quelque peu. Alors lequel de Céline et de Thomas et de Houellebecq illustre un petit peu mieux votre personnalité ?
Aucun, les trois à la fois. Non, je veux dire que personne.
Il n'y en a pas un particulier.
Mais on a tous universel, on fait tous partie de l'universalité du monde. Donc on est tous des êtres humains avec les mêmes ressorts, les mêmes émotions, la même chimie, la même façon de fonctionner. Même si les différences sont énormes, les ressemblances sont ce qui nous permet de parler ensemble, ce qui nous permet de communiquer, ce qui nous permet de vivre ensemble. Donc oui, non, aucun des trois. particulièrement, okay. mais chacun des trois. C'est ça qui est passionnant, c'est ouais. de retrouver à travers l'autre mmh. soi-même. D'accord. Évidemment, on ne parle que de soi, mmh. c'est clair.
Ouais. Surtout,
on n'écrit que sur soi pour les autres. Ouais. On écrit pas
ah bon,
pour
vous
soi.
Pensez que c'est pour les autres?
Ah oui.
Je sais pas, j'ai l'impression plus que Houellebecq, il écrit pour qu'on ait pitié de lui, hein, quand même. Hein.
Oui,
et un peu
c'est
tous
ça.
D'ailleurs.
Il écrit donc pour les autres, il écrit pour, sur lui, pour lui, et pour, évidemment, pour et... qu'on soit compassionnel
c'est
avec
ça,
lui.
C'est ça, exactement.
C'est, le mot compassion est très important pour lui. Hein.
Ouais.
Le mot bonté et le mot compassion,
c'est, clair.
C'est son sujet principal.
Tout
hein,
à fait.
Dit-il.
Mmh. Mmh. Ces hommes ont un parcours typique pour arriver à avoir de telles relations quand même. Hein. Ils s'inspirent des problèmes des autres pour en faire des schémas un peu typiques, vous ne trouvez pas? Non, reproduire un petit peu le même schéma du coup.
S'inspire
par exemple, Houellebecq, il s'inspire de Schopenhauer, qui n'était pas non plus simple.
Non, il trouve dans Lovecraft ou Schopenhauer de quoi étayer, de quoi se raccrocher, de quoi avoir raison.
Ouais.
C'est-à-dire que dans dans Lovecraft, qui est le premier essai qu'il a fait paraître, qui a été édité, mm-hmm. C'est clairement quelqu'un auquel il s'est... C'est sa référence.
Non, mais beaucoup.
C'est un livre aveu.
Oui.
Il se retrouve totalement dans, mm-hmm. dans Lovecraft.
Oui.
Et le sous-titre du livre, de l'essai sur Lovecraft, c'est « Contre le monde, contre la vie
ouais. ».
C'est le slogan publicitaire mm-hmm. de Michel Houellebecq.
C'est ça. Mm-hmm.
La haine de soi, ouais. la haine des autres.
Ouais.
Le premier essai qui sort, qui est édité, que l'éditeur trouve intéressant à éditer, c'est « Contre le monde, contre la vie
ouais. ».
C'est clair. Mm-hmm. Et ça l'a été pour les deux premiers romans.
Mm-hmm.
Après est venu un succès fabuleux, immédiat, enfin les particules élémentaires qui lui ont rapporté des millions et le monde a changé.
Mmh.
C'est-à-dire que la
sa
haine
vision
n'est
a
plus
changé.
La même.
Ah bon?
La haine n'est plus là.
Il s'adoucit un petit peu plus.
Ben, c'est-à-dire qu'il est reconnu.
Oui.
Enfin, il est reconnu par les autres
oui.
au niveau où il se reconnaît lui-même.
Mmh.
Donc.
Enfin, il voit ce que je vois de moi, c'est ça?
Oui.
Mmh.
Et. C'est un garçon qui est très orgueilleux,
oui.
Il est enfin, il peut se passer des autres, il peut se passer d'être petit employé à l'Assemblée nationale.
Oui, jusqu'à ce qu'il ait besoin
voilà,
des gens.
98, il a résolu son problème matériel, c'est-à-dire il peut vivre
c'est ça.
Sans... travailler du tout.
Exact.
Ouais. Et il travaillait pas beaucoup, mais là, il travaille plus du tout. Et à partir de ce moment-là, le monde change.
Mmh.
Et donc, Lovecraft va changer. Il a découvert Schopenhauer aussi, il a découvert, enfin, bien avant,
mmh.
mais Schopenhauer, de toute façon, c'était comme Lovecraft, c'était la même philosophie, hein.
mmh.
c'était le monde est épouvantable,
mmh.
Les autres sont épouvantables,
ouais.
enfin, c'est le refus de la société, mmh. le refus du mariage,
mmh.
le refus de la vie de couple,
ouais.
le refus du sexe,
mmh.
le sexe, enfin, la philosophie, c'est, globalement, c'est le sexe et l'argent, mais le monde.
Mmh.
Voilà.
En fait, c'est un petit peu
simple.
La façon de penser des gens qui ont des problèmes et puis jusqu'à ce qu'ils arrivent à avoir une situation qui les suffise, là, on change de vision, quoi.
Un peu, un peu lentement, mais et puis il s'est marié juste quelques mois avant que ne paraissent les particules élémentaires,
mmh.
donc et le grand succès qu'il prévoyait. Il prévoyait que ce serait. Il doute de rien. Il doute de surtout. Pas à ce moment-là de lui, enfin il doute jamais de lui,
mmh.
il doute du monde et des autres, mais pas de lui.
Mmh.
Et les particules élémentaires vont être un succès, et il s'est marié avec Marie-Pierre Gauthier
mmh.
Au printemps 98,
mmh.
avant que ne sortent les particules élémentaires, et que ce soit le grand succès.
Mmh.
Et il s'est marié parce que Marie-Pierre Gauthier, qui l'a fait, enfin qui a été là aussi une des personnes qui ont fait sa réussite,
mmh.
qui l'ont mené, qui
ouais.
l'ont managé, qui,
mmh.
l'ont, qui l'ont aidé, qui l'ont organisé,
mmh.
qui l'ont structuré,
mmh.
Qui ont structuré sa réussite,
mmh.
comme Raphaël Sorin, mm-hmm. comme Michel Buteau, mm-hmm. etc., etc. Enfin, il y a plusieurs personnes comme ça
ouais.
qu'il abandonnera d'ailleurs ouais. par la suite.
D'ailleurs, on ne sait pas ce que devient sa femme. Hein. Qu'est-ce que ouais. disparition
pas. Non, mais je ne sais pas.
Impossible.
Ben, elle pratiquait, il pratiquait lui et elle beaucoup les hôpitaux psychiatriques quand même.
D'accord.
Ouais, ben oui. Donc oui, c'est des pathologies lourdes. Mmh. Hein, c'est pas.
Pourtant, vous en parlez pas. On a l'impression que uniquement elle.
Si.
Ah bon, si, Michel si. Houellebecq oui, oui. aussi.
Non, il souffre. Lui, il s'en sort mieux, mais il souffrait.
Parce qu'à un moment, elle va à l'hôpital.
Oui, bah oui.
Et puis souvent, lui, il s'en fout. Mais... Et puis c'est l'ami qui va chercher sa femme.
Voilà, oui, oui.
Il n'a plus besoin. Passage,
mais... Non, mais non, c'est pas aussi. Mais c'est compliqué de rentrer dans le malheur des autres.
Ouais.
Donc lui, il a déjà ses propres malheurs et il a du mal effectivement à partager le malheur des autres comme les autres ont du mal à partager le sien.
Il n'a pas beaucoup de compassion, non ?
Ben, c'est mieux de le dire que de le faire.
Et vous disiez tout à l'heure que Michel Houellebecq, c'était l'abandon qui, on va dire d'une certaine manière, qui l'a amené à être ce qu'il est aujourd'hui. Pourtant, il y a plein de gens qui vivent ce genre de problèmes et qui s'en sortent bien, non ?
Oui.
Pourquoi ?
Oui, mais lui, il s'en sort très bien.
Ah bon, vous trouvez ?
il s'en est très bien sorti.
C'est ce que je veux
dire. Beaucoup de gens aimeraient bien.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à se plaindre à ce point de fait que ses parents l'ont abandonné, c'est pas quelque chose d'unique. Beaucoup de personnes le vivent et ils se plaignent pas du malheur.
Mais il se plaint pas,
ouais.
il se plaint pas du tout.
Il a quand même écrit des livres sur sa mère, quoi, et des lettres et tout, publiques.
Il en souffre. Non, les lettres à sa mère sont pas publiques.
D'accord.
Et il aime pas qu'on les publie, d'ailleurs. Non,
ah bon, il n'a pas écrit une lettre en demandant à sa mère que si... vous l'avez écrit. Si tu veux me contacter, envoie-moi un chèque. Sans chèque, je ne répondrai pas, la lettre ira à la poubelle.
Mais je veux dire que... Et c'est pas lui qui a rendu cette lettre publique, c'est
ouais.
sa mère,
mmh.
enfin publique, qui l'a donnée à un journaliste mmh. du Point, mmh. qui l'a publié dans son livre, que
D'accord.
je reprends moi.
Mmh.
Mais lui, il s'élève totalement contre la publication de ce genre d'intimité.
D'accord.
Et on le comprend, parce que ça donne pas de lui une belle image,
ouais.
mais on s'en fout. Enfin,
mm-hmm.
je veux dire, ce qui compte, c'est l'image tout court, c'est
mm-hmm.
la réalité de son image.
Mm-hmm.
Et la réalité de son image, elle est simple.
Mm-hmm.
C'est un homme qui a souffert d'être abandonné par ses parents, par son père et par sa mère, qui ont vécu leur vie séparément, chacun
mm-hmm.
de leur côté.
Mm-hmm.
Et lui, il se retrouvait avec sa grand-mère, et sa grand-mère a été absolument adorable avec
ouais.
lui.
Mais justement, lui, il a eu
au
moins une grand-mère qui a pu s'occuper de lui. Pourquoi
voilà.
à ce point, voilà en plus.
Ouais, ouais.
Et pourquoi à ce point ça l'a bouleversé au point d'être ce qu'il est aujourd'hui.
Chacun a sa sensibilité,
ouais.
chacun a sa petite chimie interne. Lui, ça l'a foutu en l'air,
mm-hmm.
Clairement. Donc il s'est rattrapé en étant premier de la classe
mm-hmm.
et tout, ce qui l'a encore plus mis à l'écart, parce que les premiers de la classe, comme les surdoués,
ouais.
Sont pas toujours compris
mmh.
par les autres,
mmh.
s'intègrent pas forcément et jouent pas au foot avec les autres.
Ouais.
Enfin bref, donc il a été refusé, probablement il a été humilié à
mmh.
l'école, au lycée, etc.
Mmh.
C'était un garçon sur lequel tombait,
ouais.
comme Thomas Bernhard,
mmh.
c'est pareil, qui raconte très clairement la façon dont sa mère l'humiliait
mmh.
en exposant le drap souillé
mmh.
par la nuit, puisqu'il pissait au lit, jusqu'à 12
ouais.
ans.
Ouais.
Mais là, c'est des causes psychologiques, c'est
ouais.
évident.
Lui, au moins, il a quand même
maintenant.
Une excuse, parce que
mais
c'est
lui...
traumatisme, alors que Michel Houellebecq,
ouais.
c'était juste un abandon, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose de logique, mais c'est beaucoup de
c'est
gens...
C'est énorme, louride, enfin, pour parler de quelqu'un qui n'écrit...
Ouais.
Enfin, qui écrit, qui est un superbe poète, mais en chanson... qui en a fait des chansons, Lou Reed, c'est pareil. Il
ouais.
a été battu par ses parents
mm-hmm.
et il s'en est jamais remis.
Ouais.
Il l'a traité... Enfin, lui, il l'a écrit dans une chanson, lui.
Ouais.
Les parents qui se battent entre eux
ouais.
et son père qui sort à Revolver pour menacer sa mère.
Mm-hmm.
Enfin, tout ça, il en a été témoin
mm-hmm.
et il en a fait des chansons
ouais.
parce que lui aussi était dans le réel.
Exact.
Et raconter ce qui se passe dans ma vie.
Mm-hmm.
Les seringues sur la plage de New York, etc., etc. Enfin, je veux dire, il est... bon, c'est un poète comme, comme Houellebecq et qui raconte son réel, et son réel, c'est la banalité de la violence familiale.
Ouais. On remarque chez ces trois hommes quand même qu'ils ont peur des sentiments. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué à un moment donné ? Ils ont peur de subir les sentiments, c'est-à-dire le rejet,
exact.
Mais aussi d'aimer, d'éprouver.
Exact.
Ouais.
Exact.
Parce que vous essayez de montrer à travers ces trois essais.
C'est exact, c'est ça. C'est l'amour est impossible, l'amour est difficile.
Ouais.
Et pourtant, il est difficile à refuser.
Oui, exactement.
Donc l'amour, il est facile.
On veut, on en rêve, mais on ne veut pas le vivre.
C'est un manque. Ouais. C'est un manque énorme. On ne vous l'a pas donné, on ne vous l'a pas appris.
Exact.
Et donc, vous le remplacez virilement par le sexe.
C'est ça.
Mais le sexe, c'est rien.
Enfin, ouais, je veux dire, c'est limité.
C'est physique. Non, mais c'est animal. C'est bien, mais c'est nécessaire.
Ouais.
C'est, pathologiquement, c'est quand même symptomatique.
Ouais.
C'est-à-dire... manque d'amour,
c'est
donc
ça.
Le sexe, le sexe, ben, on en fait vite le tour,
c'est
donc ça rend encore plus évident
solitaire.
Le manque d'amour, le manque de... Voilà. Et Houellebecq, là-dessus, il va très vite sur la sublimation, sur le mystique. Enfin, il y a des passages dans ses poésies surtout, où il... Parce que la poésie permet une liberté d'expression instinctive qui est non retenue, moins retenue, qui est plus, enfin sur un plan psychanalytique, plus facile à analyser. Et les poèmes de Houellebecq, Dieu sait s'il se réfère à ses poésies, et si pour lui la poésie est la véritable expression. Sa véritable expression.
Oui.
En fait, il a fait des romans pour gagner du pognon.
C'est ça. Pour écrire
clairement.
Des poèmes.
Mais sa véritable vocation, son véritable être, c'est de se laisser aller à la plume de la poésie. C'est plus léger et c'est plus profond.
Ouais.
Et dans ses poésies, il est totalement. Enfin, certaines de ses poésies atteignent le mystique total.
Est-ce qu'il y a eu des moments pour ces trois hommes justement où qui vivent des relations difficiles avec les hommes et avec les gens tout simplement? Est-ce qu'il y aurait eu un moyen pour qu'ils ne puissent pas subir leurs sentiments justement et justement être dans cette situation de mal-être? Est-ce que vous avez un conseil pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être subi ce genre d'abandon ou bien de mal-être ou bien de honte de la famille, mais justement ils peuvent s'en sortir parce qu'il y en a qui arrivent finalement du coup? C'est vrai,
oui,
on a chacun nos façons de digérer les choses, mais est-ce qu'il y a un remède justement pour éviter ?
Bien sûr, le remède, il est dans ce, il est donné en un seul mot, c'est la création.
Ouais.
On s'en sort dans la vie en créant, que ce soit un enfant, que ce soit une entreprise, que ce soit une relation, que ce soit un livre, que ce soit une peinture, que ce soit un programme de... Je sais pas.
Ouais.
Mais si l'homme ou la femme crée, c'est pour exister.
C'est vrai.
Et son existence se retrouve pleinement acquise à partir du moment où on fait quelque chose, où on produit quelque
c'est
chose,
vrai.
Où on
ouais.
crée quelque chose.
Ouais.
Donc, si on écrit, c'est parce que on est mal et on a été mal ou on est mal. Si on danse, c'est parce que on a besoin de quelque chose à exprimer. Si on fait un film ou si on fait une émission de radio ou si on fait peu importe, la création c'est la façon de passer dans un autre monde qui est plus qui est l'expression de soi, qui est gratifiant. Quelle que soit cette forme, hein, ça peut être n'importe quoi, peu importe. C'est de faire, de créer, d'avoir le sentiment de créer. Même une famille. Les femmes, et là où Houellebecq a raison, les femmes s'en sortiront toujours à partir du moment où elles ont ce pouvoir que n'ont pas les hommes, qui est de créer la vie.
C'est vrai.
C'est incroyable.
C'est vrai.
Incroyable. Créer la vie.
Ouais. C'est énorme, hein.
Non, mais on peut pas mieux faire.
C'est clair, on peut pas mieux faire. Mais justement.
Mais pourtant, c'est banal, c'est rien, c'est n'importe quel animal, mammifère, etc. Le fait. Mais nous, on sait qu'on le fait. Enfin, on le sait, on le sait pas toujours. Mais on peut savoir qu'on le fait vraiment sciemment.
De toute façon,
comme une création.
C'est ça. De toute façon, on a été créé à l'image de Dieu, vous savez, qui est lui-même créateur. Donc forcément, on est né pour créer. Vous n'êtes pas d'accord ?
C'est là où effectivement un créateur peut se prendre pour Dieu, oui, tout à fait. C'est on est des dieux, oui, oui, en créant, absolument. C'est c'est chamanique. C'est effectivement, on crée un monde, on crée un univers, on est en relation avec la grande, la création avec un grand C, etc., etc.
Oui. Exact. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Houellebecq concernant le moins de philosophie pour être heureux? Il faut moins de faire moins de philosophie pour être heureux. En gros, on réfléchit trop, ça rend peur. Qu'est-ce qu'il voulait dire, non?
Bah oui, mais enfin, c'est pas... C'est l'inverse de ce qu'il fait. C'est un homme qui réfléchit beaucoup, c'est qui a toujours beaucoup réfléchi.
Oui, il parle par expérience.
Il n'arrête pas de réfléchir. Ouais.
Mais est-ce que
donc
c'est
effectivement,
forcément
ça ne le rend pas heureux, puisqu'il n'est pas heureux.
Mais c'est un cas général, vous trouvez?
Non, mais c'est une phrase qui est une phrase bidon, ça.
C'est une excuse pour lui.
Non,
c'est un résumé pour lui, quoi.
Bah oui, trop réfléchir, effectivement, c'est...
Ça rend pas heureux parce qu'on creuse la vérité.
Bah oui, puis on
tourne en rond
et puis ça nous empêche de vivre autre chose.
Je sais pas, on peut faire la part des choses, réfléchir et après vivre, pratiquer, non?
Non, mais trop réfléchir, c'est ça la phrase.
Oui, oui, exactement.
Mais trop réfléchir, réfléchir un minimum quand
même. C'est clair. Faut mettre pause. Je pense qu'on peut vivre en faisant les deux. Et sur le fait que la femme et le sexe féminin sont l'abîme de l'homme, vous êtes d'accord avec lui?
Ah ben ça, il y a de quoi s'y perdre.
Alors moi je reformule la phrase, et si je dis que donc l'abus de la femme, ou de l'homme d'ailleurs, et du sexe est l'abîme, comme tout d'ailleurs, c'est pas une meilleure façon de penser?
C'est un gouffre.
Ouais, quand on abuse, forcément quand on en abuse...
C'est un gouffre, au sens
y a plus de limite,
physique
hein.
du terme, effectivement, un vagin c'est une grotte, c'est un refuge, c'est un gouffre, c'est un abîme, au sens... physique et propre du terme, c'est l'utérus d'origine, c'est l'utérus, la grotte utérus,
tout à fait.
Comme je dis quelque part, mais et il a un très beau poème là-dessus, où il en fait l'endroit de la communion céleste, l'endroit de la communion, c'est là où il est mystique, c'est pour lui, c'est un endroit, c'est un refuge, il en parle comme tel, crûment, mais justement, et il en parle aussi comme d'un endroit où se passe la fusion sublime et sublime, ce qui est juste.
Enfin bon. Au point d'être un abîme
Mais un abîme, c'est pas forcément négatif.
Non, non, mais un abîme, c'est quelque chose, c'est un endroit où on se perd.
Voilà, c'est la perdition.
Exactement.
Mais c'est bon de se perdre.
Ouais, mais de façon limitée. Il faut savoir en ressortir de temps en temps.
Ouais, mais c'est pas parce qu'on se perd qu'on se retrouve pas.
Ben, pourquoi il en parlerait dans ce cas-là? Je pense que... Non, non. C'est pour dire, en fait, en gros, que la femme et le sexe...
Pour moi, je le prends pas négativement.
D'accord.
Je prends pas négativement. C'est... Le sexe, pour lui, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de physique.
Ouais.
Il y a deux côtés. Il y a... Michel Houellebecq, c'est vraiment un homme de déliaison, c'est le cas de le dire. De dédoublement. Dans Particules élémentaires, Michel Houellebecq, c'est deux personnages, c'est deux frères, Bruno et Michel. Et alors que c'est il raconte lui, il se raconte lui à travers deux personnages. Et toutes, même ses phrases, sa construction de phrases est dédoublée. Et elle est séparée par un point-virgule. C'est très intéressant le point-virgule chez Michel Houellebecq. Mais sa vie elle-même est dédoublée. C'est-à-dire que c'est un être de rationalisation, de rationalité, et c'est un être poétique, intuitif. Et on retrouve exactement dans le point-virgule, dans ses romans, même dans Particules élémentaires, qui est le roman essentiel, qui le raconte de A jusqu'à Z, on voit très bien ces deux personnages qui n'en sont qu'un. Et il y en a un qui est en totale réussite, qui va réussir, donc déjà le clonage, qui est déjà son obsession, qui est Michel Jarzynski, qui va être une gloire, un sommet de la science mondiale, etc., etc., mais qui a des problèmes avec le sexe, qui a des problèmes avec le couple, qui a des problèmes avec l'amour, et l'autre, Bruno, qui est un raté total, qui termine qui passe son temps dans les hôpitaux psychiatriques, qui est l'autre partie du personnage, qui est le personnage paumé, le paumé. Il y a le paumé raté, ils sont tous les deux ratés, c'est évident, hein, c'est Houellebecq, donc ça ne peut être que raté. Mais il y en a un qui est rationnel, la science, et il y en a un autre qui est, je ne vais pas dire poétique, mais qui
se laisse balloter.
Voilà, et qui est obsédé tellement, obsédé par le sexe, qu'il ne fait, il ne pense qu'à ça, qu'il ne pense qu'au ratage qu'il a avec le sexe. Et il va être sauvé par une certaine Christiane qui est exactement le portrait de Marie-Pierre Gauthier, qui est exactement le portrait que Michel Houellebecq va rencontrer dans sa vie et qui sera sa deuxième femme. En même temps qu'il écrit d'ailleurs Particules élémentaires.
Là, j'ai l'impression quand même que vu qu'il a des problèmes de relation avec les femmes, et du coup, comme il est dans ce cheminement un peu perdu, pour lui, il a un peu réduit le sexe et les femmes un peu à la perdition, quoi. C'est ça son résumé, non ?
Ben, il a peur des autres, hein. Contre la vie, contre le monde, contre la vie. Ça reste quand même son slogan fondamental. Et les autres, c'est, il ne sait pas les aborder.
Il les comprend
c'est
pas.
Difficile. Et il les comprend trop bien.
Ah bon ?
Il comprend trop bien, oui. Mais
mal.
Donc les autres, mal, je sais pas, mais il les comprend. Okay. Il les analyse, il les dissèque très bien. C'est, il adore la science, c'est un homme, il adore les animaux. Il a passé sa vie, son enfance, sa petite enfance, à lire Pif le chien et à regarder la vie des animaux. Donc, non mais je veux dire, Pif le chien, c'est vrai, mais je rigole, mais la vie des animaux, etc., il est passionné par la jungle, il est passionné par les relations animales, et il est facile de faire l'analogie avec les êtres humains. Et il fait l'analogie lui-même avec les prédatrices, avec la domination de l'être sur l'autre, de la femme sur l'homme. C'est toujours dans ce sens-là. Les hommes dont il raconte l'existence, c'est lui toujours, et c'est lui dominé par les femmes, c'est lui dirigé par les femmes, c'est les femmes qui le choisissent, ce qui est vrai dans la vie. Enfin, dans la vie, c'est vrai qu'une femme choisit les hommes, choisit ses hommes, mais c'est pas l'homme qui est... Même si, de temps en temps, elle laisse croire qu'elle a été choisie par l'homme. Mais en principe, dans nos civilisations à nous, occidentales, c'est une évidence. Et Michel Houellebecq est le premier...
Alors,
c'est pour ça qu'il pratique la substitution de la masturbation et de la prostitution. C'est un grand défenseur de la prostitution.
C'est ça.
Et de la masturbation.
C'est ça.
Parce que là, au moins, on choisit.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il dit que le chien vaut mieux que les hommes ?
Ben, ce n'est pas le problème que je sois d'accord. C'est quand même une réflexion.
On peut avoir le même avis, non ? Certains peuvent avoir le même avis, mais c'est
non,
vrai quand même.
Non, j'aime pas du tout les chiens. Non, je préfère.
Ah bon ?
Alors, je le dis dans mon livre, il y a des gens qui sont chiens
c'est
et
vrai.
Il y a des gens qui sont chats.
C'est ça.
Et chez les écrivains, c'est pareil. Mm-hmm. Et c'est très symptomatique. Mm-hmm. Les écrivains qui sont chats, moi je suis totalement chat.
Moi aussi.
Complètement. c'est des animaux que j'admire, que j'aime, que... Enfin, c'est extraordinaire. Mm. Vivre avec un chat, c'est prendre une leçon.
C'est clair.
C'est... Non. Les chiens, c'est totalement différent. C'est ce que je... Enfin, c'est une des thèses de ce livre. Effectivement, c'est de dire, si Michel Houellebecq adore les chiens, c'est parce qu'il est comme les chiens, cynique comme les chiens. Mm. C'est-à-dire qu'un chien, ça pisse, ça chie dans la rue, sans se préoccuper du... Ça baisse dans la rue sans se préoccuper du regard des autres.
Oui, mais le chien
aime. Chat ne fera jamais.
C'est vrai.
Un chat ne fait pas ses besoins dans la rue. Ah un chat se cache, va se cacher. C'est il lui
vrai.
Faut son endroit.
Exact.
Pour... Et même quand le chat va mourir ou quand le chat va baiser, il le fait en se cachant. Et parfois, on ne le retrouve pas.
C'est vrai.
C'est absolument fabuleux. La différence entre un chat et un chien, entre les gens qui aiment les chiens, les gens qui aiment les chats, c'est fondamental. Lui, il aime les chiens. Pourquoi ? Parce qu'il est cynique comme les chiens.
Sauf que les chiens aiment sans attendre en retour. C'est parce qu'il n'est pas son cas. Il le dit lui-même.
Parce que les chiens sont dépendants, comme lui. Mmh. Et ils sont dépendants de l'amour du maître.
Ouais.
Ils ne demandent rien. Mmh. Et ils ont... Bon, mais c'est surtout le cynisme qui compte.
C'est ça.
Un chat n'est pas cynique.
Non.
Un chat est totalement égoïste, totalement personnel, totalement... Mais il n'est pas cynique. Le comportement d'un chat n'a rien à voir avec le comportement d'un chien.
Mmh. C'est vrai.
Enfin, on peut parler du cheval, si vous voulez.
Non, le chien, j'aime bien les chats. Est-ce que vous avez envoyé votre livre à Michel Houellebecq? Lui qui a interdit certains livres le concernant.
C'est l'éditeur qui peut s'en occuper, pas moi.
Vous avez tenté?
Non, pas du tout. Non, j'ai même pas cherché à le rencontrer.
Ouais.
Ça n'a aucun intérêt. J'ai pas plus rencontré Céline que Houellebecq.
Oui, mais eux, ils sont morts.
Voilà.
Est-ce que vous auriez aimé justement qu'il participe un petit peu à l'élaboration de ce livre ou pas?
Non. Ah, pas du tout, non, ça ne le regarde pas. C'est, ouais. Ça le concerne, mais ça ne le regarde pas.
Qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire ou penser en lisant ce livre?
De toute façon, il déteste tout ce qu'on peut dire sur lui sans qu'il le dise lui-même.
C'est ça.
Voilà.
Est-ce que ça fait comment?
Pour lui, c'est... Non, ça n'a aucun intérêt. La meilleure chose qu'il a à faire, c'est ce qu'il fait, c'est se taire. C'est faire comme si ça n'existait pas.
Ah.
C'est l'omerta, c'est le silence qui est la meilleure arme stratégique dans ces cas-là.
Et qu'est-ce que ça fait d'écrire sur un être vivant, psychologiquement, sachant que justement on peut avoir un retour, non?
C'est un objet d'étude,
c'est
comme
tout.
Un autre,
ouais.
C'est un objet.
Oui, mais donc, eux, ils ne répondent pas. Alors que lui, il peut répondre.
Mais si Thomas Bernhardt, d'ailleurs la préface de Thomas Bernhardt est faite par Gemma Salem, qu'il a pratiqué, qu'il a connu, etc., qui est quelqu'un de vivant, avec qui j'ai encore toujours des rapports. D'ailleurs, je lui ai envoyé ça.
Ouais.
Je lui ai envoyé le Houellebecq, qu'elle déteste.
Ah, pourquoi? À cause du personnage?
Déteste.
Ah, voilà.
Ah oui, ben, pour elle, c'est un crabe. Et non, Gemma Salem, si elle a fait la préface, c'est parce qu'elle a adoré le livre. Elle a dit, c'est tout à fait juste. Mmh. Vous n'oubliez personne.
Okay.
Vous parlez exactement des femmes telles que je les ai connues, telles que je les ai... certaines, je les connais toujours, etc., etc.
Oui, mais c'est pas Thomas Bernhardt.
Elle m'a dit, non. Mais elle m'a dit, c'est très juste. Okay. Vous avez une perception de l'individu très perspicace. Enfin, je veux dire, vous avez exactement percé l'individu. Enfin, voilà. Bon.
D'accord.
Et donc, j'ai un œil analytique, paraît-il, très juste.
D'accord.
Bon, bon. Donc,
pas besoin de préface de Houellebecq, alors?
Ah non, il n'aurait jamais accepté. Il n'aurait jamais accepté. Il le dit, d'ailleurs, je commence le livre, je crois, par ça,
justement,
sur la biographie.
Exact.
Il refuse toute biographie, sauf arrangée par lui.
Mm. Vous parlez de double personnalité tout à l'heure.
Oui, dédoublement. Oui.
Tout à fait. Est-ce que vous pensez que Michel Houellebecq est un menteur, qu'il se ment à lui-même, en fait, du coup?
Je crois que c'est humain de se mentir. Enfin, on arrange sa vérité.
Oui.
Mais bon, c'est pas le mensonge, c'est...
Parce que vous parliez à un moment du livre que les gens sont déçus quand ils le voient. Parce qu'ils crachent tellement que quand on le voit tout petit, gentil, un peu méfiant, comme un chien d'ailleurs, on se dit « Ah, mais c'est pas le même personnage, on pensait à avoir quelqu'un qui aboie » et en fait, pas du tout.
Ça, c'est Beck BD qui le dit. Parce que ce qui est intéressant chez Houellebecq, c'est que comme c'est un personnage vivant, c'est un personnage de notre époque, sur le net, à travers les interviews, sur Internet, les interviews des gens qu'ils connaissent ou qui l'ont connu, qui l'ont pratiqué, etc., etc., on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources de renseignements.
Mmh.
Moi, j'ai fait mon livre à partir de ça, en faisant une enquête, enfin, enquête entre guillemets, c'est-à-dire en m'intéressant vraiment au personnage, à la façon dont il est perçu, la façon dont il vit, dont il a vécu, et puis surtout sa grande intelligence des choses, de la vie et de la façon dont il s'en est sorti. Ça, c'est impressionnant. Et c'est un type, donc aujourd'hui, on a les moyens de tout savoir, en fait.
Donc,
c'est ça qui est redoutable.
Donc double face, mais pas menteur. Il se ment pas lui-même, alors.
Mais il se raconte sa vérité. Il se raconte comment on peut vivre... en étant, enfin, où est-ce qu'on est? On n'est pas. On, On a été, on sera, mais le présent n'existe pas. Il existe un passé, il existe un avenir, mais le présent, c'est déjà du passé. C'est déjà de, donc, Houellebecq ne ment pas. Il a besoin de se raconter, il a besoin de s'en sortir en racontant des histoires. C'est pour ça qu'on est romancier.
Ouais. Il se raconte des histoires.
On se raconte des histoires, donc... oui, mais il se ment pas, il raconte, il triche pas avec sa vérité. Au contraire, parce que ça se verrait, ça se sentirait.
C'est comme si moi je faisais une émission et que je suis comme voilà tel que je suis, et puis les gens me voient dans la rue, en fait, je sais pas, tout le contraire de ce que je présente. Bon, après, on peut dire ça aussi des gens de la télévision, mais là, c'est un auteur qui, quand même, a une personnalité assez forte dans les médias, et puis il a son opinion dans ses livres. Et du coup, quand les gens le voient, c'est carrément loin d'être ce qu'il est, quoi. C'est...
Vous pensez ? Vous l'avez déjà rencontré ?
Non, mais c'est ce que vous avez écrit.
Non, il n'est pas loin de ce que... Non,
et de
il...
ce que Beck BD explique, ça ?
Non, Beck BD, le... Oui...
Tout mignon, tout apeuré, et puis
oui, mais il joue à ça. Oui, mais il en joue.
Ouais,
ça.
Voilà, c'est ça.
Il découvre en plus maintenant, il commence à découvrir le métier d'acteur.
Ça aussi, il a besoin de gens.
En étant acteur, il est lui-même l'image qu'il veut donner lui-même, c'est-à-dire effectivement apeuré. Oui, le terme est juste apeuré, perdu, mais perspicace.
Au moins, il est actif. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il est actif. Au moins, il s'ennuie pas. Il se laisse pas. En se plaignant, il ne se laisse pas non plus se morfondre dans son coin en faisant rien du tout. Ce qui est bien.
Ah,
c'est pas transparent dans le livre, mais vous l'appréciez, Michel Houellebecq, le personnage public ou l'homme ou aucun.
Difficile de répondre. Au départ, j'avais un a priori contre. D'ailleurs, pour moi, c'était loin d'être un type aussi énorme que Céline ou aussi passionnant que Thomas Bernhardt. J'avais pas beaucoup d'estime pour l'écrivain et pour l'homme, intelligent, malin dans ses interviews, etc. Plus malin qu'autre chose. Après, quand on travaille dessus, quand on creuse le personnage, ce qu'il a écrit, c'est pas de l'estime que j'ai, c'est de la compréhension.
D'accord.
C'est-à-dire, je comprends pourquoi il est ce qu'il est et comment il s'en sort en étant ce qu'il est.
D'accord.
Voilà. Mais il est d'un égoïsme, d'une... Alors quand Gemma Salem dit c'est un crabe, je comprends l'idée.
Les crabes pincent et après ils rentrent dans leur trou, c'est ça?
Ils dépècent. Ils dépècent.
Ok. Septembre 2018, est-ce qu'on aura droit à un essai d'une série sur des femmes psychotiques et leur relation avec les hommes?
Lesquelles?
Je sais pas, vous en avez? Il doit y en avoir.
Et qui?
Non, il n'y en a pas.
Je
suis sûr qu'il y en a. Oh, c'est pas bien de dire ça. Il y en a, mais vous vous intéressez pas aux femmes, non? Non, mais il doit y en avoir des femmes aussi à la hauteur.
Non, mais je vois pas qui.
Il n'y a pas de femmes à la hauteur de ces hommes-là, un peu perturbés, qui ont écrit de grandes œuvres, qui ont fait de.
J'ai horreur de George Sand.
Ah, bon. Bah justement, ce serait moyen d'apprendre plus.
Non, mais ça se vend pas. Ah. Déjà, Thomas Bernhardt a du mal à se vendre. Houellebecq, je sais pas.
Bah, vous faites pour la vente ou pour qu'on en apprenne plus ces personnages?
Si on fait des choses, c'est pour être reconnu, c'est pour être vu et lu et su. Bien sûr, bah oui, on écrit pas pour le plaisir de soi-même, parce que... Enfin bon, je connais pas un gamin, un enfant qui fait un dessin que pour lui-même. Il le fait pour sa maman, pour son papa, pour etc. Donc on crée pour les autres, on crée pas pour soi. Même si évidemment on crée pour se faire du bien à soi. Mais
il y a des personnes qui ont écrit des livres et qui les ont jamais sortis parce qu'ils avaient besoin de digérer.
Malheureusement.
Alors pas de femme en vue pour la 2018, non?
Non.
Vous cherchez pas.
Non, mais il faut voir avec l'éditeur. Mais,
Non, bon, je vais faire une liste.
Je vais pas lire.
Je vais vous m'envoyer.
Non, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement. Bah, trois, c'est déjà pas mal.
Ouais,
c'est bien,
ça suffit,
c'est une
là.
Petite collection, c'est bien.
Un peu voilà. De femme, je pense que c'est intéressant.
C'est intéressant en plus, c'est toujours la problématique est la même.
Ouais.
C'est les problématiques d'hommes, d'êtres humains, je veux dire. Voilà.
Alors l'année prochaine, un autre homme alors, ou pas? Vous continuez la
je
série?
Je sais pas du tout.
D'accord.
Non, je crois que la série.
Elle termine là.
Oui,
d'accord.
Sais rien, je sais pas.
Est-ce que vous avez envie d'écrire sur autre chose du coup?
Ah ben moi, j'écris toujours sur autre chose. Oui.
Ah, petit indice pour le prochain.
Paul Klee, toujours.
Ah.
Le chamanisme.
D'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le chamanisme?
Les relations de l'être humain avec les puissances qu'il dépasse.
Ah, ça serait bien, un livre sur Dieu. Non, ça vous intéresse pas?
Ou sur les dieux, ou sur la puissance...
La relation de...
Ouais.
Les hommes et leur relation avec Dieu.
Oula, mais ça c'est trop vaste. C'est 300 000 années de
travail.
D'humanité.
C'est clair. Alors donc.
Non, mais le sacré, oui. Les relations de l'homme et du sacré, mais ça a déjà été
non,
fait.
Je sais pas.
Personne ne m'a attendu.
De cette manière-là, je
Personne
pense pas.
Personne ne m'attend.
Ça serait plutôt quand les hommes ont besoin de Dieu, ils vont vers lui, et quand ils vivent bien dans leur vie, il n'y a plus de Dieu.
Oui.
Il y a des choses à écrire. Hein.
Une relation.
Une unie relation.
De cet ordre divin.
Merci Pierre de Bonneville.
MM Radio.